100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025. Bonsoir Jean-Sara Méa.
Bonsoir à toutes et à tous.
Ce soir, nous parlons de l'année 1935.
Eh oui, bon anniversaire à toutes celles et ceux qui sont encore très nombreux et nombreux à fêter cette année leurs 90 ans.
Alors, que se passe-t-il dans le monde en 1935 ?
Alors, la fin d'une guerre bien oubliée, la guerre du Chaco, qui a fait énormément de victimes entre le Pérou et la Bolivie. On sait maintenant que l'origine de cette guerre, puisque c'est la même langue, la même religion et quasiment les mêmes peuples, c'était la concurrence entre deux grandes compagnies pétrolières, une américaine et une anglaise, qui avaient senti qu'il y avait, il n'y en avait pas énormément, du pétrole sous cette plaine terrible au niveau climatique. C'est pas dans les Andes, c'est au pied est des Andes. Et pendant plusieurs années, les deux peuples se sont trucidés d'une façon invraisemblable. Autrement, alors 1935, très important, la guerre d'Éthiopie. On l'a bien oublié, mais Mussolini décide de conquérir l'Éthiopie et le roi Victor Emmanuel III est d'autant plus d'accord qu'il va être proclamé empereur d'Éthiopie. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'Éthiopie, dirigée par le Négus, Haïlé Selassie, est à la SDN, à la Société des Nations, et elle est agressée. C'était un pays totalement indépendant, qui n'avait jamais été colonisé. Elle est donc agressée par un pays étranger. Donc la Société des Nations ne peut pas faire autrement, mais la France en fait partie, et le Royaume-Uni, etc., que de prendre des sanctions contre l'Italie. Et ces sanctions vont ulcérer Mussolini et le jeter dans les bras de Hitler, alors que jusque-là, Mussolini détestait Hitler. L'inverse n'était pas vrai. Mais à partir de 1935, Hitler va envoyer du charbon, de l'acier, etc., pour aider Mussolini. Et ça va être, pas immédiatement, mais la montée en puissance de ces deux puissances qui vont en définitive s'allier contre la France et le Royaume-Uni. Donc c'est une date clé d'avant-guerre. Voilà, autrement, en Chine, c'est ce qu'on a appelé la longue marche du Parti communiste dirigé par Mao Tse-tung. C'est une catastrophe, hein. Mao Tse-tung part dans les montagnes du centre-ouest de la Chine pour échapper aux troupes nationalistes. Il perd quasiment les trois quarts de toutes ses troupes. Mais bon, il survivra et aura évidemment un avenir historique.
Et qu'en est-il en France ?
Alors, en France, le président, c'est Albert Lebrun. Bien oublié, mais j'ai retrouvé des photos dans des journaux d'époque. Albert Lebrun au col du Galibier, avec le président du conseil, Daladier, et Albert Lebrun passant en revue les troupes françaises au Lautaret. Et on voit exactement où c'est photographié. Alors pourquoi avait-il fait ça ? Parce que Mussolini commençait à laisser entendre qu'il s'intéresserait à des territoires au-delà de ses frontières. Et donc c'était une façon, surtout au Galibier, d'affirmer que la Savoie, entre autres, mais le Dauphiné aussi, était bien français. Le service militaire en France est porté de 12 à 24 mois. Parce qu'il y a des rumeurs de difficultés internationales, puis surtout parce que ceux qui ont 20 ans en 1935 ne sont pas nés en 1915 à cause de la guerre. Donc il y a si peu de jeunes qui entrent dans l'armée qu'il faut augmenter la durée du service militaire. C'est le lancement d'un magnifique paquebot qui terminera son existence à New York pendant la guerre. C'est le Normandie qui rafle le ruban bleu à sa première traversée. Et sur le plan économique, la France est lourdement rattrapée par la crise économique. Et Pierre Laval, qui est un des premiers ministres de la Troisième République, hein, des années 30, fait une politique de déflation pour faire baisser les salaires, baisser les pensions, ce qui fait s'effondrer la consommation. Et la dette extérieure de la France monte à l'époque, bien avant le Front populaire, donc, à 100% du PIB. Voilà. Autrement, la France participe à une conférence internationale à Stresa, Suisse de langue italienne. Mais, bon, disons, l'entente européenne ne va pas longtemps perdurer. Laval va essayer de signer un pacte d'assistance entre la France et l'Union soviétique. Entre, donc, la France et Staline, parce que l'Allemagne devient un ennemi qui réarme rapidement, qui est de plus en plus menaçant, et pas seulement dans les discours. Ce pacte entre la France et l'Union soviétique ne sera pas, disons, très effectif par la suite. Peut-être que les deux côtés se méfiaient de l'autre signataire. Autrement, cette année-là, la Sarre redevient allemande. Bon, c'est loin d'ici, mais c'est un endroit que je connais. La Sarre, avec ses importantes mines de charbon, avait été confiée pendant 15 ans à la France à cause des destructions que l'armée allemande avait faites dans le nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. Et il était entendu qu'il y aurait un référendum. Et massivement, les Sarrois votent pour le rattachement à l'Allemagne. Et le soir même, des dizaines de milliers de Sarrois, disons républicains et francophiles, franchissent la frontière à la Brême d'Or, Goldene Brême, tout près de Forbach, un endroit que je connais bien puisque j'ai été enseignant il y a 50 ans sur place. Et les Juifs qui savent à peu près ce qui les attend, franchissent également massivement la frontière et se réfugient en France le soir même du référendum. Voilà quelques idées importantes.
Et en Europe alors ?
Alors en Europe, les historiens retiennent le grand congrès nazi de Nuremberg, c'est 1935, où Hitler annonce toute une série de menaces sur des États voisins et proclame les lois raciales. Les lois raciales contre les Juifs allemands. Le but, à l'époque, est de les faire partir. Les faire partir en abandonnant tout. Ce n'est pas encore la solution finale. Il faut attendre 41-42. Mais, disons, c'est une politique d'exclusion et dès 1933 et en 1935, c'est connu, la presse française et les journalistes français en parlent, il y a déjà pas mal de camps de concentration qui sont des camps de travaux forcés pour les Allemands, pour les communistes, les socialistes, certains religieux même qui n'apprécient pas le nazisme et qui sont mis en camp de travaux forcés, quelquefois on dit rééducation, mais c'est particulièrement répressif.
Et donc au niveau de la culture, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Que trouve-t-on en 1935?
Alors, Julien Duvivier en France réalise Maria Chapdelaine sur un célèbre roman décrivant la partie rurale et intérieure du Québec. Autrement, Julien Duvivier toujours, La Bandera, et le grand metteur en scène et réalisateur britannique, Hathaway, Les Trois Lanciers du Bengale, qui repasse quelquefois, c'est évidemment sur la présence anglaise, dans l'Empire des Indes. Autrement, au niveau des grandes pièces de théâtre qui ont laissé un nom, Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Ça fait allusion très nettement aux tensions internationales. Très nettement. Gershwin, l'opéra Porgy and Bess, dont on joue encore certains morceaux. Le Goncourt revient à un écrivain qui écrit des romans tout à fait charmants, disons dans la veine rurale et traditionnelle, le bien oublié, Joseph Peyret. Alors, cette année-là, Tino Rossi vend 80 000 disques tous les mois. C'est, disons, la grande année, Tino Rossi, avec le succès principal, Amapola, mais pas seulement. Mireille, c'est une chanteuse, et directrice de groupe de chanteurs, propose une chanson adorable puisque vous partez en voyage. Oh, c'est vraiment une chanson humoristique. Bon, Paul Mizrahi. Et je l'ai chanté dans un groupe de musiciens dans le Var. Tout va très bien, Madame la Marquise. Eh bien, en 1935, c'est une façon, puisque la marquise perd tout ce qui faisait sa richesse, ça fait allusion à, ben, aux menaces en Europe. Même si c'est dans une veine très humoristique. Bon, Vincent Scotto, qui est également un compositeur à succès, c'est un de la Canebière. Notre canne, 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 cannebière. Bon, rappelons que ça n'a rien à voir avec la canne de Provence, la cannebière. C'est pas un roseau, c'était la culture du chanvre pour faire les cordages pour les bateaux. Voilà, juste une petite précision, disons, technique et géographique. Bon, nous écouterons à la fin, donc je ne le répéterai pas. Léon Montagnier, La guinguette a fermé ses volets. C'est moins connu, mais on est au milieu des années 30. Les gens, le samedi, surtout le dimanche, le samedi n'est pas encore un jour de congé. Il faut attendre le Front populaire, et encore. Ben, on va au bord de l'eau, dans les guinguettes, où on mange un peu la friture, on danse. C'est le côté agréable des dimanches. Mais pour l'agglomération parisienne. Voilà. Maintenant, ça doit exister aussi autour de Lyon. Hein, on va manger la friture sur la Saône, pourquoi pas.
De riolets de l'accordéon fuse. On voit comme sur un écran des profils inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant un costaud qui frise à l'échafaud pour des bandits qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur. Oui, mais la guinguette a fermé ses volets.
Et au niveau du sport,
juste deux choses. Le grand boxeur français Marcel Thiel, T-H-I-L, devient champion du monde. Et pour le Tour de France, bien oublié, c'est le Belge Maes, M-A-E-S, pardon pour la prononciation, qui gagne le Tour de France. Voilà. Et précision technique, ce sont les premiers programmes de télévision en Allemagne. Pour la France, il faut attendre 1949. Mais il y a déjà, je pense c'est juste Berlin et autour, les premiers programmes de télévision quasiment publics. Voilà.
On peut passer au décès et aux naissances.
Oui.
On commence par les décès peut-être.
Voilà, alors le grand général polonais qui est le créateur de la Pologne moderne d'après 1919, Joseph Piłsudski, qui a été timbrifié pendant des décennies. Le célèbre Laurence d'Arabie, l'acteur. André Citroën. Citroën fait faillite avec la crise. Et André Citroën, disons, ne le supporte pas. Le capitaine Alfred Dreyfus, qui avait été un personnage ô combien polémique sur le plan politique et sociologique, même dans les années 1890 et 1900. L'écrivain français Henri Barbusse, qui a fait en 1916 un célèbre roman qui décrit de façon extrêmement précise ce qui est vécu au front par les soldats en dehors de toute propagande. Il était à gauche, sinon à l'extrême gauche. La reine Astrid de Belgique, et ça va faire pleurer toute une partie de l'Europe parce qu'elle était adorée, elle était très sympathique et elle meurt dans un accident. Le peintre Paul Signac, qui est célèbre notamment à Saint-Tropez et autour. L'écrivain Paul Bourget, qui est peut-être moins lu de nos jours. Le compositeur autrichien Alan Berg. Et le plus grand poète de toute l'histoire du Portugal, Fernando Pessoa. Pessoa, qui est vraiment le héros culturel du Portugal, est vraiment un poète mondialement traduit et connu.
Je fais une parenthèse avant de passer aux naissances. Vous faites beaucoup de références au timbre. C'est une passion, n'est-ce pas, Jean-Sébastien ?
Oui. J'ai, jusqu'à il y a 2 ans, où ma foi j'ai mis fin, j'étais le président du CPIEN. C'était le Centre de Philatélie Instructive de l'Éducation Nationale. C'est-à-dire qu'à la demande des écoles et des collèges, on leur envoyait des timbres sur des thématiques qui leur étaient utiles. Historique, ou la nature, ou le sport. L'an dernier, j'ai encore eu pas mal de demandes pour les Jeux Olympiques. Voilà. Mais bon, il y avait des adhérents désormais trop âgés, trop peu nombreux, et trop peu d'écoles. La philatélie, le symbole maintenant, ce sont des retraités âgés qui veulent bien mettre un peu de temps et d'argent dans ce qui fut une passion, mais que beaucoup de jeunes ne connaissent plus du tout. Et c'est dommage parce que c'est une source documentaire dans des thématiques extrêmement variées, et puis une source d'histoire et de géographie extrêmement intéressante. Voilà.
En tout cas, vous n'avez pas perdu cette passion.
Tout à fait.
Alors, nous passons aux naissances maintenant en 1935.
Alors, un choix, bien sûr. Elvis Presley. Bernard Pivot, qui a animé de très célèbres émissions littéraires dans les années 70-80. Pour parler d'ici, je me souviens d'Émilie Carle, l'autrice, comme il faut dire maintenant, de Val des Prés, qui était allé, au peu de temps avant sa mort, donc c'était à la fin des années 70, présenter la soupe aux herbes sauvages chez Bernard Pivot. Et Bernard Pivot avait un sourire admiratif, et je revois ses yeux grands ouverts, en lui disant mais enfin madame, mais c'est vrai ce que vous dites au début de votre livre, que quand vous étiez jeune, on vous ficelait sur le mulet, et on disait au mulet, tu montes jusqu'à l'alpage du Granon. Il dit, mais oui, vous savez, je n'ai rien inventé, c'était comme ça. Oh, ça alors, ça a été un succès littéraire traduit dans beaucoup de langues et ça a fait connaître la vallée de la Clarée et un petit peu le Briançonnais. Autrement, Françoise Sagan, grande autrice, le comédien Laurent Terzieff, Alain Delon, le roi Hussein de Jordanie et Woody Allen. Bon, libre à vous de chercher sur des ouvrages ou Internet les autres naissances qui parlent encore dans la mémoire actuelle.
Cela nous parle déjà pas mal. Merci Jean Saraméa. Bonne soirée à toutes et tous.
À bientôt.